Chapitre 3. L'étang, juin. Votre inquiétude à mon sujet, cher ami, est une preuve d'affection que je n'oublierai pas. Mais tranquillisez-vous, je ne m'ennuie pas dans le sens propre du mot, bien qu'il y ait parfois, en moi, cette attente vague que chacun connaît et qu'un grand génie a bien définie. Mais les jours s'écoulent sans monotonie, et cela pour une raison que vous démêlerez dans un instant. Tout d'abord, parlons de mon esprit qui met le temps à profit pour se recueillir et entrer plus profondément dans la connaissance des choses. Plus on réfléchit, plus on pense, avec vous, que la vie est une merveille dont nous devrions jouir à chaque heure du jour. Quoique cette faculté de jouir ne soit pas chez moi aussi développée que chez l'ami à qui j'écris en ce moment, je sens que, sous ce rapport, l'avenir m'appartiendra. Vous me direz, du reste, que je suis encore trop jeune pour être dominée par la sérénité de notre philosophie. Pourtant, lorsque nous songeons que, par celle divine de l'univers, nous participons à son développement, que nous sommes les ouvriers nécessaires de Dieu, nous devrions connaître, dès l'abord, cette sérénité qui, à l'automne de la vie, est devenue votre lot. À vous seul, je puis parler avec la certitude d'être comprise. Ici, chacun est simpliste, et mon beau-frère, qui d'ailleurs n'y entend rien, me moleste de temps en temps. « Où diable dénichez-vous les idées que je vous entends émettre ?» me disait-il hier. « Je n'ai même pas la peine de dénicher, » répondis-je en riant. « Elles viennent à moi aimablement. »« Très bien, ma chère Catherine, mais ne dites rien devant mes enfants pour les sortir du courant religieux que leur mère et moi nous suivons. » « Mais je le suis moi-même, ce courant, » répliquai-je. « Je l'élargis simplement. »« Ah ! Je souhaite que le cours d'eau ne sorte pas de son lit. » Vous le voyez, avec de l'intelligence et de l'esprit, il est incapable de me comprendre, ce qui n'altère pas notre cordiale amitié. Actuellement, un de mes griefs contre lui est son engouement pour notre voisin. Monsieur d'Hautefort est venu enfin, revenu encore, et nous glissons rapidement vers des relations qui ressemblent à de l'intimité. Ma sœur m'invite souvent. Elle le plaint parce que, dit-elle, il a certainement éprouvé un chagrin qui a détruit son bonheur. « Je lui sais grand gré, m'a-t-elle dit, d'avoir eu le bon goût de ne pas rappeler sa parenté avec l'infortuné dont il porte le nom. » « Parenté éloignée. » « Parenté très réelle, en tout cas, et l'air de famille est grand. J'en suis souvent frappée. Mais si, lors de son passage en France, il l'a vu, il a dû l'oublier complètement. Il y a si longtemps. » Je répondis que ce tact supposé était probablement un pur hasard. J'étais assez contente de rabaisser son mérite, si mérite il y a, car nous sommes, lui et moi, sur le pied d'une sourde hostilité. Pourquoi ? Peut-être à cause de nos conceptions de la vie très différentes. Bien que nous ne nous soyons pas expliqués, et il n'y a aucune raison pour le faire, nous sentons que nous nous heurterons un jour. Jusqu'à nouvel ordre, je le malmène un peu, n'aimant pas les rétrogrades. Il a pensé, c'est visible, seulement je crains que son esprit n'ait tourné dans le cercle des idées acquises dès l'enfance. Elles ont du bon, comme toute manifestation intellectuelle, mais il y a des échappées profondes, secrètes, inconnues de ceux qui vivent ainsi sur un bien reçu. Je ris maintenant à l'idée qu'il était un coupable. La franchise de son regard et la tranquillité évidente de son âme ne peuvent tromper. À l'église, debout et grave, il ne lève les yeux que sur l'autel, et pendant que je médite sur les grands symboles dont nous sommes environnés, je ne sais à quoi songe cet homme tranquille. Tout à coup, la pensée m'est venue de le convertir à nos idées larges, généreuses et intelligentes. Est-il bien de rester dans le cercle étroit des siècles précédents ? N'avons-nous pas compris l'extension des croyances qui, prises au pied de la lettre, sont absurdes et, interprétées symboliquement, deviennent un rayonnement du grand souffle qui anime la création. Je crois que vous approuverez mes intentions. Vous aimez à vous pencher sur les souffrants, et les rétrogrades sont des mutilés. Adieu. Catherine. L'étang, juillet. Il y a, ma chère amie, un intérêt évident à observer un homme comme M. d'Hautefort, et bien que je ne veuille pas donner une importance exagérée à la présence de ce nouveau voisin, je suis obligé de convenir que, tout déplaisant qu'il me paraisse, il a une qualité trois fois précieuse, celle d'être bien lui-même. Après tout, me déplaît-il? Je n'en sais rien. Il m'impatiente surtout tant il est immuable en apparence dans ses opinions. À l'église, je qualifierai d'agaçant le salut grave, respectueux, qu'il adresse à l'autel en partant, si ce salut n'avait un côté presque touchant. Je suis heureuse que vous approuviez mon dessein d'élargir sa pensée, de l'amener à nos idées, mais sera-ce aisé? Je l'ai rencontré ce matin au milieu des tombeaux. Immobile comme un gardien antique, je ne sais sur quelle ruine il méditait profondément lorsque j'attirai son attention. Décidé à sortir de ma réserve, je l'accablai de questions et constatai, à sa façon de me répondre, qu'il n'avait gardé aucune rancune de mes froideurs antérieures. Nous avons parlé hypogée, tradition d'Égypte, Inde, etc. Il a tout vu, a lu beaucoup, et il en est resté, je crois, aux superstitions de notre curé. Mon étonnement était si grand que je résolus de pousser une pointe à la première rencontre. Dans la journée, nous sommes allés, Maurice et moi, visiter un garde qui s'est blessé à la jambe. J'aime ces chevauchées au milieu des arbres dont les branches s'entrecroisent pendant que la mousse du sentier amortit le bruit du galop ou que les rameaux secs craquent sous le sabot du cheval. Monsieur d'Hautefort nous avait précédés dans la maison du garde. Il avait apporté je ne sais quel onguent exotique dont le blessé se trouvait admirablement. « Tiens, Hautefort ne nous avait pas dit cela !» s'écria Maurice. « C'est un brave homme !» dit le garde avec émotion. « Sans doute, répliqua mon beau-frère, l'ignoriez-vous ? » Maurice, qui connaissait les bruits absurdes que l'intelligence paysannesque avait fait courir, était enchanté d'affirmer son estime pour son nouvel ami. Ce garde est un beau vieil homme de 65 ans. Ancien sous-officier assez instruit, il a désiré sa situation obtenue par l'entreprise du vieux monsieur d'Hautefort. Son caractère original et solitaire s'arrange de cette vie particulière. « Ah oui, répéta-t-il, c'est un brave homme, je le connais bien. »« Pas beaucoup, dit Maurice en riant, mais vous vous figurez le connaître parce qu'il vous a bien soigné. »« Parce qu'il m'a bien soigné, répéta Olivier. Vous croyez, monsieur Maurice, que c'est pour ça? Après tout, c'est bien possible. » Son ton était si singulier que, en sortant, j'en fis la remarque à mon beau-frère. « Je suis sûr, me dit-il, qu'il croit notre voisin doué d'un talent surnaturel. » Au détour d'un chemin, nous nous arrêtâmes simultanément. Nous étions arrivés à la clairière où s'élèvent les rochers que vous connaissez. Monsieur d'Hautefort les dessinait et le cadre un peu sauvage convenait certainement à ses goûts. « Eh, l'homme !» cria Maurice en riant. « Vous croyez-vous encore dans la savane pour laisser ainsi votre cheval en liberté ?»« Il me connaît, » répondit Monsieur d'Hautefort en s'approchant, « et je ne crains pas qu'il s'éloigne. » Sur la demande de ma nièce, nous mîmes pieds à terre et pendant que Jeanne et son père tournaient autour des roches, je m'assis sur une pierre de granit. « Cet endroit est vraiment pittoresque, » dis-je à Monsieur d'Hautefort. « Mais peut-être vous, qui avez tout vu, le trouvez-vous insignifiant ?»« Il est joli d'une façon absolue. Ensuite, c'est le pays et c'est tout dire. » Je me récriai, mais cet homme étrange, qui connaît par cœur les grands sites du monde, cet homme singulier ne voit rien de comparable au pays natal qu'il n'a pas habité. C'est l'amour qui détermine souvent à nos yeux la beauté d'un paysage, me dit-il. J'admets, dis-je, le sentiment qui vous inspire, mais je ne l'admettrai pas exclusif. J'aime qu'on jette un regard curieux et bienveillant hors des frontières et qu'on cueille partout des impressions nouvelles. Il m'écouta en souriant, puis, allant au fond de ma pensée et appelant tout de suite les choses par leur nom, il me déclara « Je ne suis ni dilettante ni cosmopolite. » Et cela, après avoir tant voyagé. « Mais puisque vous aimez tant la France, comment se fait-il ?»« Comment se fait-il que j'ai passé ma vie loin d'elle ?» ajouta-t-il en terminant ma phrase indiscrète. « C'est par nécessité, non par goût. » Il est singulier que n'ayant jamais fait qui passer, vous l'aimiez autant. « Oui, c'est singulier, » répéta-t-il avec calme. Je commence à le connaître assez pour soupçonner que ce calme est parfois affecté et peut cacher une vive émotion. je le crois plein d'une sensibilité qu'il domine et dissimule avec soin. Il paraissait heureux de causer, et bientôt, comme je le désirais, nous fûmes aux prises. « Si je juge d'après vos déclarations de ce matin, dis-je, vous aimez les idées acquises dans l'enfance. » « Cela dépend, quand elles sont basées, comme les nôtres, sur une saine philosophie et sur la vérité, il n'y a pas à les changer, il n'y a qu'à les développer. » « Les développer, dis-je vivement, comme vous avez raison, les comprendre surtout dans leur vrai sens, c'est un grand bonheur. » Quand il vous observe, il a une façon de fermer à moitié les yeux qui est assez déconcertante. « J'ai réfléchi, repris-je, que vous m'avez sans doute jugé très indiscrète ce matin. » Mais je suis curieuse de par nature. J'aime tous les défauts féminins, me dit-il, avec une impertinence si tranquille que je me mis à rire. Continuez, je vous prie. Que pensiez-vous de votre serviteur? À vrai dire, je craignais que vous ne fussiez... Comment dirais-je? Encrouté, dit-il en riant. Le mot est exagéré et sonne mal avec une vie comme la vôtre. En effet, ce serait une anomalie. Bien grande quand on a tant vu. Un peu embarrassé, je tournai court. Comme vous êtes heureux d'avoir vu les bords du Gange, je voudrais connaître ce débordement de vie intense qui doit donner une compréhension si complète des grandes forces dont nous sommes les rouages divins. Les rouages divins, répéta-t-il, en vérité, je ne me sens pas divin du tout. Je me sens un pauvre homme plein de troubles, d'incertitudes et de défauts. Quoi, vous n'avez pas senti, maintes fois, que vous étiez la vie elle-même? Ne sentez-vous pas Dieu dans les métamorphoses de votre pensée aussi bien que dans celles de la nature? Il n'eut pas le temps de répondre parce que Maurice et sa fille nous interrompirent. Pourquoi ne nous avez-vous pas suivis? Demanda mon beau-père. Nous discutions, répondis-je. « Ah, j'aurais voulu entendre cela !» Lorsque nous repartîmes, accompagné par M. d'Hautefort, il mit son cheval près du mien et me demanda, sans autre forme de procès, « Quel Dieu ?»« Comment quel Dieu ? Il n'y en a qu'un, je suppose. »« Ne pourriez-vous me le définir ?»« Le définir, dis-je scandalisé, je vous croyais plus intelligent. En tout cas, je constate avec plaisir que je suis beaucoup plus religieuse que vous. » Car pour moi, cette violette, à sa façon, est Dieu, comme ces arbres majestueux, comme toute évolution de la nature et de la pensée. Je le vis sourire. Ce Dieu-là, me dit-il d'un ton railleur, il s'appelle matière et il ne peut être le mien. Étant catholique dans l'âme, je suis un spiritualiste convaincu. La réponse m'interdit. Et moi, ne suis-je pas catholique ? Mon impatience était si grande que l'idée me vint de lui donner un coup de cravache. Est-ce ainsi que, saisissant à rebours la pensée des autres, il ne saisit rien ? Nous ne nous comprenons pas, dis-je d'un ton sec. Et je me rapprochai de mon beau-frère afin de n'avoir plus aucune conversation avec un homme aussi obtus. Cependant, je ne me tiens pas pour battu et au premier jour, j'exigerai des explications de cet être insolent qui me demande de définir une pensée cependant assez claire. Adieu. C. L'étang, juillet. Le portrait de M. d'Hautefort que vous m'envoyez n'est pas flatteur, mais il est amusant. Fait de déduction et de chic, comme disent les peintres, il manque d'exactitude. Vous en conviendrez vous-même quand vous serez ici. Votre idée de venir batailler me ravit, et puisque vous entrez avec tant d'ardeur dans mes desseins, votre aide me sera précieuse. Nous sommes en face d'un rude adversaire, et votre prosélytisme aura un sérieux terrain de développement. Maurice nous répète que, au lieu de discuter à perte de vue avec M. d'Hautefort, nous ferions mieux de le marier. Cela n'a aucun rapport. Mais mon beau-frère est un homme qui prend la vie par son côté pratique et se soucie peu du reste. Vous prétendez tous qu'il est triste, malheureux dans sa solitude. Sortez-l'en. Ce sera mieux que de l'accabler de politesses et de discussions. Avez-vous une femme pour lui ? Demanda ma sœur. Certainement, mademoiselle Saint-Chamond. Elle a 30 ans, elle est jolie, intelligente. Invitez-la avec lui et complotons. « J'imagine, reprit Madeleine, qu'il n'a pas une haute opinion des femmes. Il refusera. Que sait-on ? Tromper une première fois, ce n'est pas une raison pour l'être une seconde.
Mais rien ne dit qu'il ait été trompé, répliquai-je.
Bah, c'est évident, reprit Maurice. Plusieurs de ses propos en font foi.
À mon sens, l'idée de le remarier est plutôt ridicule, et je n'ajoute pas que j'entends ne point m'en mêler. Je ne croyais pas, en arrivant ici, trouver un élément de vitalité pour mon esprit. Discuter, élargir une intelligence trop étroite, me met en belle humeur guerrière. En revoyant le garde, je me suis rappelé son ton singulier, et, de nouveau, j'ai pensé qu'il avait une raison pour voir M. d'Hautefort d'un œil particulier.
« Vous avez été promptement guéri, Olivier, lui dis-je.
« Oui, madame, ceux qui viennent de loin en savent souvent plus long que les huîtres attachées à leurs rochers.
« Vous ne flattez pas vos compatriotes, Olivier ?»«
Il n'y en a pas beaucoup d'aussi bons que ce revenant, je l'affirme. »«
Comment, ce revenant ?»«
Puisqu'il est revenu en France, c'est bien un revenant. »«
Ce serait juste s'il avait habité, mais il ne l'a jamais que traversé, » dis-je en observant sa mine soucieuse.
Il est au-dessus des paysans par son instruction première, mais vivant depuis 35 ans au milieu d'eux, il a dû entrer dans leurs croyances extravagantes, et je fus frappé de son attitude lorsque M. d'Hautefort passa auprès de nous sans s'arrêter.
Olivier changea de couleur, et le timbre de sa voix n'était plus le même quand il me dit adieu. Quelle étrangeté que cette tendance marquée à croire à la sorcellerie, car, au fond, c'est la pensée de tous et la rapidité avec laquelle la plaie d'Olivier s'est guérie a dû ancrer cette foi superstitieuse dans la cervelle de notre garde. Après cela, la superstition, religieuse ou autre, a droit de vie comme tout le reste. Elle a sa place utilitaire que nous ne voyons pas. Adieu. Désormais, je compte sur votre visite.
C'est...